Bonjour à tout le monde. Voilà, ça fait plaisir de vous retrouver, de vous revoir, de revoir ceux qui sont de retour, d'autres qui le seront plus tard. Bienvenue à ceux qui nous rendent visite, peut-être pour la première fois. Voilà, nous avons chanté, nous avons prié ensemble et nous allons continuer en écoutant ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui à travers sa parole. Il nous a déjà parlé puisque nous avons entendu plusieurs lectures de la parole de Dieu. Nous allons prier. Notre Père, nous voulons nous réjouir en toi, en effet, parce que nous avons en ton Fils Jésus-Christ un souverain sacrificateur, celui qui est assis à la droite de la majesté divine, qui intercède pour nous, qui nous permet de nous approcher de toi. Et nous savons, Seigneur, que tu es plein de compassion à notre égard. Ce matin, nous te demandons de regarder dans le cœur de chacun de nous, pour ceux qui sont dans la joie, que tu augmentes leur joie. Ceux qui ont besoin d'être encouragés, que tu augmentes leur force et leur courage. Visite-nous, parle à chacun de nous. Que ta parole, Seigneur, habite au milieu de nous avec puissance. Que notre cœur te soit disponible et que tu parles par moi pour que ton peuple soit encouragé et fortifié et que nous avancions sur le chemin que tu nous as tracé. Nous te prions par le nom de Christ. Amen. Voilà, la parole de Dieu nous présente plusieurs églises qui sont des modèles. Ce n'est pas dit de manière explicite, mais l'église de Jérusalem, l'église d'Antioche, certaines églises dans les sept lettres écrites aux églises dans l'Apocalypse, comme l'église de Philadelphie, comme l'église de Smyrne, comme l'église d'Éphèse, sont offertes au peuple de Dieu comme des églises à imiter, des églises modèles. Mais il y en a une qui est mentionnée explicitement comme une église modèle offerte au peuple de Dieu. C'est une église à qui nous sommes invités à ressembler. Une église à qui ressembler. C'est ce que nous voyons depuis quelque temps. Vous vous rappelez que cette église, c'est l'église de... Bravo pour la réaction. Donc, on va le refaire. Vous vous rappelez que c'est l'église de... Oh, ben ça me rassure. Je crois que je vais vous solliciter un petit peu plus aujourd'hui pour que vous répondiez. Donc, chaque fois que je dirai « c'est l'Église que nous voulons », vous répondrez « c'est l'Église que nous voulons être ». D'accord ? Donc, chaque fois que je dis « c'est l'Église que nous voulons être ». Voilà. « C'est l'Église ». Donc, l'Église
que nous voulons être.
L'Église des Thessaloniciens, c'est l'Église offerte par le Seigneur comme modèle au peuple de Dieu. Et vous vous rappelez que dans les Écritures, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7, il est écrit que cette Église, vous êtes devenue un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Vous êtes devenue un modèle. Et effectivement, ils étaient un modèle pour nous dans plusieurs domaines que nous avons déjà évoqués. Ils ont été un modèle dans la manière dont ils ont accueilli la parole de Dieu, comme venant d'un, non pas d'un homme, mais de Dieu lui-même. Ils ont été un modèle dans la manière dont ils ont manifesté leur foi, dont ils ont manifesté leur amour, dont ils ont manifesté leur espérance persévérante jusqu'au bout. Ils ont été aussi un modèle dans la joie qu'ils ont exprimée au milieu des épreuves, puisque la joie de l'esprit débordait dans la vie de ces croyants alors qu'ils étaient éprouvés par la persécution du peuple d'Israël. Ils étaient un modèle dans la manière dont ils ont réconforté par leur résistance dans l'épreuve l'apôtre Paul, puisqu'il leur dit « Oui, nous étions inquiets pour votre foi, mais nous avons appris que l'épreuve n'est pas venue à bout de votre foi, bien au contraire, elle vous a affermi, et pour cela, ça a été un grand réconfort pour nous. » On peut dire que c'était une église qui rayonnait dans la région où Dieu l'a placée. Une église avec des valeurs, une église avec une culture, comme nous venons de le voir, une église dont le comportement était un comportement agréable à Dieu. Une église avec une belle réputation, avec des louanges que Dieu leur a données, qu'ils ont reçues de l'apôtre Paul. C'est une église que nous voulons. Voilà. Ben voilà. Non, j'attends. Voilà l'église que nous voulons être. Ils ont déjà oublié. Voilà l'église que nous voulons être. Voilà l'église à qui nous voulons vraiment ressembler. Alors bien sûr, nous ne voulons pas simplement devenir des imitateurs. Nous voulons être des imitateurs pour que, à notre tour, nous soyons des modèles. Parce que le but que Dieu nous donne, c'est que les croyants soient des modèles les uns pour les autres et que les églises soient des modèles. Si seulement toutes les églises étaient des modèles les unes pour les autres, ce serait vraiment le paradis sur terre, déjà, n'est-ce pas? Dieu ne nous demande pas simplement d'imiter, mais il nous donne un modèle afin que nous-mêmes nous reflétions sa grâce, sa bonté, son amour et que d'autres puissent s'inspirer de nous. C'est pas moins que ça. Le peuple chrétien a besoin d'être un peuple, comment dire, ambitieux. Ambitieux pour sa vie spirituelle. Nous n'avons pas besoin de regarder vers la moyenne, mais nous avons besoin de regarder vers l'excellence. Dieu attend de nous que nous tendions vraiment vers ce qui est parfait, vers ce qui est absolument excellent. Le peuple de Thessalonique était un peuple modèle, non seulement dans les domaines que je viens d'évoquer, mais c'était un peuple modèle aussi dans leur désir de plaire à Dieu. C'était des gens qui voulaient vraiment plaire au Seigneur et lui être agréable. Dans le chapitre 4, Paul va leur donner des instructions ou des conseils sur la manière de vivre la vie chrétienne au quotidien. Et à cette occasion, nous découvrons que ces chrétiens sont un modèle dans leur désir de plaire à Dieu. Alors Paul, dans les chapitres 1 à 3, va évoquer la manière dont les chrétiens de Thessalonique ont accueilli l'Évangile, la manière dont ils ont laissé l'Évangile transformer leur vie, la manière dont ils ont laissé l'Évangile les nourrir jour après jour, une bonne nouvelle qui a bouleversé leur vie, parce qu'ils étaient des adorateurs d'idoles, ils se sont tournés vers le Dieu vivant et vrai, et dorénavant, leur orientation a complètement changé. Et Paul, à partir du chapitre 4, il va passer à autre chose. Il va, après avoir regardé vers leur passé, faire tourner leurs yeux vers leur présent et vers leur futur, en leur disant, voilà ce que l'Évangile a fait en vous et pour vous, et maintenant, voilà comment vous allez répondre à cet Évangile qui a agi dans votre vie pour vous changer et transformer le quotidien de votre vie. On peut dire qu'il a parlé de leur foi ou de ce qu'ils croyaient, et maintenant, il va leur parler de ce qu'ils doivent vivre. Il a parlé de leur foi, et maintenant, il leur demande de manifester dans le quotidien cette foi de manière concrète. Parce que quand l'Évangile entre dans notre vie, nous avons besoin de répondre à l'Évangile de manière concrète et de manière précise. Alors, nous allons lire le chapitre 4, les versets 1 à 8. « Enfin, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons et nous vous le recommandons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère ou sa sœur dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre, nous vous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti. Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Celui qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son esprit. Notre passage commence par « enfin » ou dans d'autres traductions, vous avez peut-être « au reste donc ». Quand vous voyez ça dans les Écritures, surtout dans les Épîtres de Paul, vous devez vous dire « ah, là, on va passer à des choses d'ordre pratique ». Si vous regardez Romains 12, ça commence par « nous vous exhortons donc, frères ». Si vous regardez Éphésiens, « nous vous exhortons donc, frères ». C'est une manière dans les Écritures de voir que Paul va passer d'un enseignement à une pratique dans la vie de tous les jours de cet enseignement. Et c'est le cas ici, puisque Paul va donner des instructions très précises sur la manière de se conduire du peuple de Dieu à Thessalonique. On peut dire qu'il a parlé de l'Évangile, comme je l'ai déjà dit, et maintenant il va parler des répercussions, de manière très pratique, de cet Évangile dans la vie de tous les jours. Parce qu'il ne sert à rien de recevoir la bonne nouvelle si elle ne change pas notre manière de vivre dans les petits détails comme dans les grands détails, dans les petites décisions que nous sommes appelés à prendre comme dans les grandes décisions. L'apôtre Paul agit toujours comme ça et c'est très important pour nous de comprendre que nous ne sommes pas dans une religion où nous devons faire ce que nous faisons. Notre réponse, c'est la conséquence de l'action de Dieu. Parce que Dieu a agi pour nous auparavant, dans les chapitres 1 à 3, parce que Dieu a tellement fait pour nous, alors nous sommes invités à répondre à son action à notre égard. On peut dire que l'apôtre Paul présente la justification, c'est-à-dire le fait que Dieu nous a déclarés justes en nous pardonnant nos péchés par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après, il va passer à la sanctification. Si tu crois que tu es justifié par Dieu, tu t'engages sur un chemin de sainteté. Celui qui a été justifié, c'est celui qui a été sanctifié. Et nous avons été sanctifiés par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Nous avons été mis à part pour le Seigneur. Mais cette sanctification ou cette mise à part de la part de Dieu nous engage sur un chemin nouveau. Vous connaissez la phrase qu'on a souvent répétée ici, « Devenez ce que vous êtes ». Vous êtes saints, mais vous devez agir pour être un peuple saint. C'est ce que Paul dit dans les chapitres 3, chapitre 1 à 3, « Vous êtes saints ». Dans le chapitre 4, « Vous devez manifester cette sainteté dans la vie de tous les jours ». Et particulièrement, l'apôtre Paul va dire à ce peuple, « Voilà ce que je voudrais vous dire ». Vous devez savoir comment vous conduire pour plaire à Dieu et lui être agréable. Regardez le verset 1 qu'il... Enfin, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Vous conduire pour plaire à Dieu. Mais vous avez remarqué qu'il ajoute immédiatement et vous vous conduisez déjà ainsi. C'est ce que vous faites déjà. Voilà. Voilà l'Église que nous voulons être. On va le redire. Hein. Et vous vous conduisez déjà ainsi. Voilà l'Église que nous voulons être. Vous ne trouvez pas extraordinaire d'entendre de la part de l'apôtre du Christ, celui que le Christ a choisi comme son ambassadeur, comme son porte-parole. Vous vous conduisez de manière à plaire à Dieu. Votre conduite est une conduite qui plaît à Dieu. Mais c'est ce que nous devrions désirer le plus. Et pour que notre conduite soit une conduite qui plaît à Dieu, nous avons besoin d'imiter ce peuple-là à Thessalonique qui plaisait déjà à Dieu. Il savait comment plaire au Seigneur? Est-ce que nous n'avons pas envie d'entendre ces paroles à notre égard? C'est ce que vous faites déjà. Vous vous conduisez déjà de cette manière-là. Et vous avez remarqué que ce peuple de Thessalonique n'a pas attendu que Paul leur écrive pour qu'ils se disent « Ah, c'est vrai, nous avons besoin de réagir ». Non. Quand Paul était déjà chez eux, il leur en a parlé. Ah, c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Au verset 2, il dit « Nous vous avons déjà donné ces instructions. Et maintenant, je les répète. » Mais dès qu'ils avaient entendu pour la première fois, ils avaient réagi et ils s'étaient mis sur le chemin de l'écoute de Dieu et de l'obéissance à sa parole et à ses commandements. Ils ont reçu l'évangile. Ils se sont tournés vers le Dieu vivant et vrai. Avant, chacun suivait sa propre voie. Vous vous rappelez, Ésaïe nous dit, chacun suivait sa propre voie. Et parfois, on suit plutôt la voie de tout le monde. Vous savez, comme les moutons de Panurge. Les gens suivent parfois sur le chemin de l'égarement, il y en a beaucoup. Et nous en étions. Mais maintenant, nous ne suivons plus notre propre voie. Nous nous sommes engagés sur le chemin de Dieu, sur la voie de Dieu. Avant, nous avions un but. C'était quoi? C'était pas de nous satisfaire nous-mêmes, de nous faire plaisir nous-mêmes. Maintenant, nous avons un autre but. Notre seul but, en tout cas, ça devrait être le cas. Notre seul but, c'est de plaire à Dieu. Notre seul but doit être de plaire à Dieu. Parce que là réside le chemin de la vraie joie, le chemin de la vraie satisfaction, le chemin de la vraie vie. Nous courons après la joie, nous courons après la satisfaction et nous la cherchons parfois ailleurs, mais elle réside dans la décision ferme et définitive de plaire à Dieu. Voilà l'Église. Merci. Paul dit au peuple de Thessalonique, « Mes frères et sœurs, vous savez comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu, puisque je vous l'ai déjà appris. » Et c'est en cela qu'ils sont un modèle pour nous, parce qu'ils se conduisaient de cette manière-là. Ils cherchaient vraiment tout pour plaire à Dieu. Plus que plaire à Dieu, ils savaient comment le faire. Ils savaient comment plaire à Dieu. Et je vous pose la question. Est-ce que nous savons comment plaire à Dieu? Est-ce que vous savez comment plaire à Dieu? Si nous savons répondre à cette question, alors nous pouvons dire, voilà l'Église que nous voulons être. Est-ce que nous savons plaire à Dieu? Tous les chrétiens nourrissent dans leur cœur le désir de plaire à Dieu, dans notre manière d'agir, dans notre réflexion, dans nos paroles, dans notre comportement. Mais parfois, il y a loin du désir à la réalité. Parfois, il y a loin du désir à la manière de savoir comment le faire. Peut-être que vous êtes en train de vous dire en vous-même, « Mais vraiment, je veux plaire à Dieu, mais comment faire ?» Le peuple de Thessalonique savait comment faire et nous avons besoin d'apprendre à plaire au Seigneur. Alors, comment vous faites pour plaire à Dieu? Je vais attendre longtemps. Non, pas que vous ne sachiez pas, mais parce que certains n'osent pas. Mais je sais que beaucoup d'entre nous ont ce désir-là de plaire à Dieu, de marcher dans ses voies. Vous savez comment plaire à Dieu, mais nous avons besoin d'aller plus loin encore, de progresser encore. Alors, est-ce que vous savez comment plaire à Dieu? Si vous ne savez vraiment pas, alors posez-vous la question, comment est-ce que je fais pour plaire à ma belle-mère? Et là, vous aurez la réponse. Ça dépend de...
Non, elle n'est pas là.
Elle n'est pas là, ma belle-mère, mais je lui plais tout le temps. Je cherche à plaire à ma belle-mère. Vous ne pouvez pas tous dire autant que moi. Peut-être que vous savez comment faire plaisir à vos enfants. Peut-être que vous savez comment faire plaisir à votre parent, à votre mère, à votre père, à votre frère, à un collègue du travail. Parfois, il y a de beaux gestes de la part de vos collègues à votre égard. vous arrivez et vous trouvez une belle carte pour votre anniversaire. Le collègue ne savait même, enfin, vous pensiez qu'il ne savait pas, mais si, il a pris le temps de savoir et il a vraiment envie de vous faire plaisir. Donc, faire plaisir à Dieu, c'est la même chose que de chercher à faire plaisir à ses parents. Autrement dit, faire la chose qu'ils apprécient le plus, faire la chose qu'ils aiment le plus, faire la chose qui va réjouir leur cœur, qui va faire trembler leurs émotions à l'intérieur. Et notre Dieu n'est jamais insensible aux actes que nous accomplissons pour qu'il en éprouve de la joie à notre égard. Si vous pouvez faire quelque chose en disant « Dieu va se réjouir parce que je le fais pour lui », là vous êtes sur le chemin pour plaire à Dieu. Mais je vais vous donner 7 indications. 7, c'est le chiffre parfait, hein. Donc, 7 manières concrètes de plaire à Dieu. Ce sont des versets de la parole, et vous allez voir, vous pouvez les noter, et cherchez vraiment à les vivre au quotidien dans votre vie. La première chose que je vous propose, c'est grandir en confiance. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si vous n'avez pas une confiance adéquate qui vous rapproche de Dieu, vous ne pouvez pas être agréable au Seigneur. Et plus nous grandirons dans notre confiance, dans notre attachement, dans notre dépendance de Dieu, plus nous allons lui être agréable et lui faire plaisir. Deuxième chose, imiter le Seigneur Jésus. C'est le modèle suprême, n'est-ce pas ? Les Thessaloniciens avaient le modèle suprême, Jésus-Christ, parce qu'ils sont devenus les imitateurs de Paul et du Christ, avant de devenir eux-mêmes des modèles. Le Christ est notre modèle, et quand nous l'imitons, nous allons vraiment plaire à Dieu. Quand il a été baptisé, la voix du ciel disait « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Ou, une autre traduction, « En toi, mon âme prend plaisir. » En toi, mon âme prend plaisir. Si Dieu prenait plaisir en son Fils, dans tout ce qu'il avait accompli, imiter le Fils, c'est être agréable à Dieu. Troisième chose, craindre Dieu. Psaume 147, verset 11. « Ce n'est pas la vigueur du cheval qu'il apprécie. » En parlant de Dieu, Dieu n'apprécie pas la vigueur du cheval. Dieu, ce n'est pas au mollet de l'homme qu'il prend plaisir. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. La crainte de Dieu. Nous avons besoin de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas trembler. Je sais que Dieu est pour moi, il m'aime, il a donné son propre Fils. Mais la crainte de Dieu dans les Écritures, c'est ce respect qui est dû à la majesté divine. Dieu est Dieu et nous sommes invités à le respecter, à l'honorer. Et s'engager sur le chemin de la crainte de Dieu, c'est s'engager sur le chemin de ce qui réjouit Dieu et lui donne du plaisir en nous regardant. Ensuite, pratiquez le bien. Ne demandant que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher de manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Et le verset 11 continue, en portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. En portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Nous sommes invités à pratiquer le bien en tant que croyants. Et la pratique du bien à l'égard de n'importe qui, c'est une manière d'être agréable au Seigneur. Dépendre de l'Esprit de Dieu. Romains 8, verset 6. Les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. Si chacun suit sa voie, si je n'écoute que moi-même, je ne peux pas être agréable à Dieu. Par contre, vous au contraire, il parle de nous, les chrétiens, vous au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui marche selon l'Esprit, dans l'Esprit, va être agréable à Dieu. Celui qui s'écoute et qui ne marche qu'à sa tête, lui, il ne pourra pas être agréable au Seigneur. Un autre passage. Être généreux. Alors ça, c'est très concret. N'est-ce pas ? Sortir l'argent de sa poche. Ah, ça sonne, hein, ça sonne, ça fait du bruit. Il vaut mieux préférer les billets. Je n'ai pas besoin de vous répéter que Dieu a mis des hommes et des femmes au milieu de nous qui sont pleins de générosité. Et nous pouvons vraiment rendre grâce à Dieu. Il y a des gens qui sont agréables à Dieu parce qu'ils ne sont vraiment pas chiches de leurs biens, ne sont pas avares de leur temps, de leur argent, de leurs biens de manière générale. Mais Dieu nous dit, c'est vraiment une manière concrète d'être agréable et de plaire au Seigneur. Par Jésus, offrant donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Et il ajoute, ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Vous voulez vraiment que Dieu se réjouisse de votre vie? Eh bien, apprenez à être plus généreux encore. Parce que se détacher des biens, c'est s'attacher à Dieu. Et s'attacher à Dieu, c'est recevoir le bien suprême qui est le Dieu vivant et vrai. Autre chose, accomplir sa volonté. Hébreux 13, verset 21. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté. Qu'il réalise lui-même en vous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. Accomplir la volonté de Dieu, c'est être agréable au Seigneur. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Amen. Hébreux 13, 21. Voilà cette manière concrète d'être agréable au Seigneur et de lui plaire. C'est ce que l'apôtre Paul a invité les Thessaloniciens à faire et il leur dit, vous le faites déjà. Oui, je peux reprendre les mêmes mots que l'apôtre Paul en disant, nous le faisons déjà. Mais, comme Paul, il faudrait que j'ajoute, mais vous devez, qu'est-ce qu'il ajoute après ? Ben, lisez. Lisez la suite. Mais vous devez progresser. Ah, mais vous le faites déjà, c'est très bien. Mais vous devez aller de progrès en progrès dans ce domaine. Vous devez grandir dans la manière d'être agréable au Seigneur, de lui plaire. Et vous savez que si nous voulions résumer la vie chrétienne, on pourrait dire la vie chrétienne, c'est un progrès. C'est un mot d'ordre en avant. Marche. Le mot qui est employé ici pour conduite, c'est le mot marcher. Hein, vous devez apprendre à marcher ou vous conduire, c'est le même mot. Donc, Paul dit, vous savez comment plaire au Seigneur, mais je voudrais que vous grandissiez dans ce domaine, que vous deveniez encore meilleur, que vous abondiez de plus en plus dans la manière de plaire à Dieu. Et plus tard, au verset 9 et 10, il va dire dans la manière de vous aimer les uns les autres. Nous sommes non pas un peuple qui stagne, non pas un peuple qui fait une promenade, non pas un peuple qui fait du surplace, mais un peuple qui sait où il doit arriver. Il y a une ligne d'arrivée pour le peuple de Dieu. Et Dieu nous dit, marchez, avancez, progressez, parce que c'est ça votre vocation céleste. Dieu nous a appelés, comme je le disais tout à l'heure, à l'excellence. Non pas à une vie moyenne, mais à une vie d'excellence, à une vie qui l'honore et qui le glorifie véritablement. Et nous pourrions dire que pour le chrétien, c'est ce slogan-là que je vais vous donner, qui résume d'une certaine manière notre vie. Je ne suis plus ce que j'étais hier, merci, mais je ne suis pas encore ce que je serai demain. Je ne suis plus ce que j'étais hier, et je ne suis pas encore ce que je serai demain, parce que demain, je sais que Dieu a quelque chose de bien meilleur pour moi. Et c'est ça qui me permet d'avancer. Il y a une promesse de la part de Dieu pour chacun de nous. Demain, tu seras meilleur que ce que tu es aujourd'hui. Mais tu le seras quand tu viseras ton but dans la vie, qui est de plaire au Seigneur. Tu veux être meilleur demain que ce que tu n'es aujourd'hui ? Donne-toi comme but, Dieu, c'est toi que je veux honorer. C'est à toi que je veux être agréable véritablement. C'est ça qui est vraiment important pour nous. Être agréable, honorer le Seigneur pour marcher et progresser et lui faire plaisir. Vous savez que vous serez amené, vous l'êtes déjà certainement quelques-uns, à prendre des décisions où là vous devez choisir à qui vous voulez plaire, à vous-même ou à Dieu. Il y a des choix qui sont extrêmement difficiles. Et le chrétien, Dieu nous dit, pour progresser, tu dois faire le choix de Dieu. Dieu d'abord.
Amen.
En avant. Mais en avant où? Parce que ce n'est pas la peine de dire en avant si on est égaré sur le chemin et qu'on va n'importe où. C'est en avant vers Dieu. Parce que c'est Dieu d'abord qui m'importe. C'est lui que je veux vraiment honorer. Et bien souvent, nos décisions, nos choix qui sont difficiles, eh ben c'est en avant, mais Dieu disparaît de notre horizon. Et là, après, nous recueillons des fruits qui sont amers, des fruits qui sont durs, qui sont tristes et qui restent comme un arrière-goût difficile à avaler pour chacun de nous. En avant, mais en avant à la rencontre de notre Dieu, à la rencontre de notre Seigneur. L'apôtre Paul, dans les versets 1 et 2, va parler de manière générale, très générale, en disant, ben voilà, vous savez comment vous conduire pour plaire à Dieu. Non seulement vous le faites bien, mais vous savez comment le faire. Mais maintenant, il va entrer dans un domaine très particulier, dans lequel le peuple de Dieu a besoin d'être vigilant et attentif, parce que les dangers sont de toutes parts, et les risques sont trop graves, et nous sommes vraiment entourés par ce problème qui va être évoqué dans les versets 3 à 6, c'est la sanctification dans un domaine spécifique qui est la pureté sexuelle. Puisque, au verset 3, il dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Ou alors, comme la Bible du Semeur le traduit, « Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saint. » Ça, c'est le mot à ne pas dire. Hein. Dès qu'on parle de saint, pour certains disent « Ah, pas moi, merci. Hein. » Parce que le mot « saint » a été tellement déconsidéré, alors que vous savez que les premiers chrétiens, ils s'appelaient, non pas chrétiens, mais ils s'appelaient les saints. Les saints, parce que le mot veut tout simplement dire que Dieu nous a appelés, comme c'est marqué au verset 7, vous voyez le verset 7, il dit « Dieu vous a appelés à la sainteté. » Dieu nous a appelés alors que nous étions loin et il a fait de nous sa propre famille, son propre peuple qui lui appartient. C'est ça tout simplement la sainteté. C'est que si vous voulez, avant, nous étions... Vous savez, souvent il y a des objets à qui on donne une deuxième vie. Peut-être que vous avez vu des artistes. Il y a des artistes qui sont allés trop loin. Hein. Ils ont pris n'importe quoi. Hein. Vous connaissez l'artiste qui a pris un urinoir et c'est devenu une œuvre d'art. Donc un urinoir qui était abandonné, lui, il l'a pris, il l'a mis dans un musée. Ben, vous aviez quand même des milliers de visiteurs qui venaient admirer l'œuvre. Hein. Mais vous savez qu'on n'est pas loin de ça, autrement dit, nous étions vraiment des objets complètement inutiles, bons pour la poubelle. Et Dieu est venu nous chercher là où nous étions pour nous dire, vous savez quoi ? Je ne vais pas vous restaurer, parce que la restauration ne servira à rien. Je vais vous recréer. Je vais vous transformer complètement. Vous allez devenir une nouvelle créature. Et je vais vous exposer à l'admiration des autres. Ce n'est peut-être pas le cas. Nous ne sommes pas peut-être le peuple tant admiré. C'est ce que nous voudrions être. Mais un jour, nous serons vraiment à la gloire de Dieu. Un jour, les anges passeront en disant, « Seigneur, mais que tu es grand. » Tu as fait une œuvre incroyable à partir de déchets, à partir de gens qui étaient indignes. Tu as accompli une œuvre d'artiste incroyable. Dieu n'est pas simplement un artiste, c'est le recréateur. Et c'est ça la sainteté. La sainteté, c'est simplement passer d'un objet inutile qui ne servait à rien, bon pour la poubelle, à un objet qui attire l'admiration et qui suscite un cri, oui, de la part des autres pour dire « Waouh, Dieu est grand, Dieu est capable de changer les vies, Dieu est capable de bouleverser les vies. » C'est ce que nous voudrions, c'est ce que nous désirons en tout cas dans notre Église, que le Seigneur nous donne la force pour cela. Paul dit « Faites attention, je veux vraiment vous appeler à être un peuple saint. » Autrement dit, ce n'est pas en nous comparant les uns aux autres, ce n'est pas en nous disant « Nous sommes meilleurs que les autres, on est meilleur que... » Merci. On est meilleur que personne, oui. On n'est pas meilleur que quelqu'un d'autre. La sainteté, ce n'est pas une question d'être meilleur. La sainteté, c'est une question de vivre autrement une vie nouvelle. Nous étions dans la poubelle, Dieu nous a sortis pour nous mettre ailleurs. Nous étions dans un domaine, dans une sphère, et Dieu nous a placés dans une autre sphère. Et cette sphère-là, c'est le royaume de Dieu. La sphère où nous étions, c'était une sphère avec des valeurs qui ne nous appartenaient pas, enfin qui nous appartenaient, des valeurs, peut-être qu'on les a empruntées, mais en tout cas des valeurs qui n'ont rien à voir avec les valeurs de Dieu. Et quand nous passons de cette sphère-là au royaume de Dieu, Dieu nous dit « Attention, tes valeurs d'avant, tu les laisses. J'en veux pas. Maintenant, tu vas venir avec les nouvelles valeurs du royaume de Dieu. » Et vous savez que les nouvelles valeurs du royaume de Dieu sont des valeurs exigeantes. Le Christ qui nous parle de ce royaume de Dieu nous a dit concernant la sexualité. Bah, vous avez entendu dire que si un homme commet l'adultère avec une femme, il est puni par la loi. Mais moi, la valeur n'est plus une valeur là. Le Christ lève le niveau et dit, mais si vous regardez une femme, dans votre cœur, vous avez déjà commis l'irréparable. Ça, c'est de l'exigence et ça, c'est la menace que nous encourons tous. Enfin, je n'ai pas besoin de faire un dessin. Il suffit d'ouvrir la télé, d'écouter la radio, les journaux pour vous rendre compte. Je ne parle pas d'Internet parce que là, c'est la catastrophe. Pour se rendre compte qu'on est dans des valeurs ravageuses et destructrices. Destructrices. Et Jésus nous dit... Si vous parlez maintenant, vous passez pour le dernier des imbéciles. Mais Dieu nous dit non, il y a une exigence. C'est très important. Et Paul prend le temps de détailler et d'insister en disant ça, c'est quelque chose de très important. Alors maintenant, on peut souvent dire, ouais, mais notre société, c'est quand même la pire de toutes. Nous avons des maîtresses pour le plaisir, des concubines pour nos besoins quotidiens. Mais nous avons des femmes pour avoir des enfants légitimes. Je répète. Nous avons des maîtresses pour le plaisir, des concubines pour les besoins quotidiens, mais nous avons des femmes pour des enfants légitimes. Qui parlait d'après vous? Non, ce n'est pas Michel Onfray. C'est Démosthène qui a vécu 4 siècles avant le Christ. Si l'apôtre Paul prend le temps d'aborder ce sujet-là avec les Thessaloniciens parce qu'ils sont venus d'un monde païen où les valeurs au niveau de la sexualité étaient à l'opposé de ce que l'Évangile proposait. C'était le jour et la nuit. Et voilà, l'un des hommes qui était l'un des brillants orateurs avocats à cette époque-là, voilà ce qu'il dit. On a des prostituées, on a des concubines et on fait ce qu'on veut. Alors aujourd'hui, aussi bien les hommes que les femmes peuvent employer ce mot-là, enfin cette phrase-là. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont visité la ville de Pompéi. La ville de Pompéi, il y a des endroits, mais c'est affreux. C'est infréquentable pour les enfants de Dieu. Ils ont pris des œuvres qui étaient dans cette ville-là et ils les ont mis dans un musée, le musée national de Naples. Mais il y a un endroit dans le musée qui est interdit aux moins de 15 ans. Oui, ça s'appelle le cabinet secret. parce qu'ils ont mis toutes les œuvres abominables qui sont impossibles à regarder. C'est des choses très dégradantes, mais vraiment, ça vous souille l'esprit si vous les regardez. Ça, c'était à l'époque de Jésus-Christ. C'était à l'époque de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul aurait pu se promener dans la ville. Et je ne vous dis pas ce qu'il a vu quand il s'est promené dans la ville d'Athènes. C'était affreux. Vous connaissez peut-être, en tout cas, quelques récits de la mythologie grecque, la mythologie romaine. C'est abominable. Les dieux se comportent d'une manière affreuse et les gens ont fait les dieux à leur image. Et c'est ça le contexte dans lequel évoluaient ces Thessaloniciens. Vous voyez, le soir, ils se sont convertis. Et le matin, ils étaient obligés d'aller à leur travail et traverser des rues, comme à Pompéi aujourd'hui, avec des dessins inregardables, avec des statues qu'on ne pouvait pas voir. Et donc, on n'est pas pire. Enfin, on a fait de ça une industrie, mais c'était déjà l'époque. À Pompéi, il y a 4 maisons. Enfin, c'était un monde terrible. Et Paul dit, maintenant vous avez changé. Vous êtes devenu autre. Vous devez vivre autrement et honorer le Seigneur. Et nous avons besoin d'écouter ce commandement de la part de Dieu. Parce que Dieu nous dit, il y va de votre vie. C'est destructeur. Faites attention. Vous avez besoin vraiment de vivre dans la sainteté. Prenez la décision de vivre dans la pureté. Prenez la décision d'honorer Dieu, parce que ça, c'est la volonté de Dieu pour vous. Ce que Dieu veut pour vous, c'est votre sanctification, c'est que chacun de vous ne vive pas dans l'immoralité, mais que chacun de vous apprenne à maîtriser son corps, à se maîtriser et à vivre dans la dépendance du Seigneur. Alors que le Seigneur nous aide et soit notre soutien dans ce domaine-là et nous donne vraiment la force pour continuer avec lui. Je veux lire juste un verset, le verset hébreu, dans Hébreux, chapitre 12, verset 14. « Recherchez la paix avec tous ou faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Hébreux 12, verset 14, je vais prier. Notre Père, nous voulons t'honorer, nous voulons te remercier parce que tu es bon à notre égard, tu nous as sauvés et tu as donné cette Église pour modèle pour chacun de nous, pour notre Église. Nous te prions de nous aider à t'être agréable, à t'honorer, à vivre pour toi. Gloire à toi. Amen.